France Inter.
Cinéaste, acteur, écrivain et critique littéraire israélien, Nadav Lapid a aussi travaillé dans le journalisme sportif et culturel. Être précoce, il écrit des poèmes vers l'âge de 4 ans et décide d'en finir avec la poésie à 7 ans. Après son service militaire, il entame des études d'histoire et de philosophie à l'université de Tel Aviv avant de se rendre à Paris en 99, mu par la conscience de la mort et sa conviction croissante de l'aveuglement général des Israéliens. En 2001, il retourne en Israël et étudie le cinéma et la télévision à Jérusalem. Parmi ses premiers courts-métrages, citons Road sur des ouvriers palestiniens prenant en otage leur chef de chantier israélien qu'ils accusent de crimes sionistes. En 2008, sort son premier long métrage, Le Policier, sur deux groupes de combattants, une unité de police antiterroriste et un groupe de jeunes insurgés d'extrême gauche. Suivent L'Institutrice, Synonyme, Ours d'or à Berlin, et Le Genou d'Aed, couronné du prix du jury du Festival de Cannes, ex aequo avec Memoria d'Apichapon Veracetakul. Titre clin d'œil au genou de Claire de Romer, mais qui rend hommage à une icône de la résistance palestinienne, Aed Tamimi. Après avoir mis en scène des personnages refusant ce qui leur est imposé, il explore l'opposé dans son dernier film intitulé Oui, dans lequel Y, un pianiste de jazz précaire de Tel Aviv, accepte de mettre en musique un nouvel hymne national à la gloire de l'action militaire israélienne à Gaza. Tandis qu'il compose la chanson de propagande, il réalise progressivement l'ampleur de l'ignominie qu'il est censé célébrer. Son dégoût pour le gouvernement israélien et son propre comportement ne vont alors faire qu'augmenter. Ce soir, nous parlerons donc de massacre, de vulgarité, de sidération et de prostitution. La sortie du film est accompagnée de celle d'un livre consacré à l'œuvre du cinéaste aux éditions de L'Œil, ouvrage dirigé par Morgane Poquet et préfacé par Juliette Binoche. Nadav Lapid, descrit d'un combat. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Nadav Lapid.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Canal Saint-Martin, hier, sous la pluie. J'ai une sorte de déliant émotionnel assez fort envers ce Canal Saint-Martin qui est étrange vu le fait que je suis né très très loin du canal et que j'ai aucune nostalgie, mais je sais pas pourquoi, mais quand je suis là, quand je suis au bord du canal, j'ai l'impression qu'encore tout est possible.
C'est drôle parce que je crois que dans les films que vous appréciez, il y a aussi la rivière et le fleuve.
Renoir et Tamimian, c'est vrai. Donc peut-être c'est ça l'explication, en fait, vous venez de trouver l'explication de mon attachement.
Mais l'élément aquatique est important. Enfin, là, je pense à votre film, Oui, dont on va parler dans quelques instants. Il y a une chose qui m'a fait rire dans ce film, c'est qu'on dirait que vous adorez plonger la tête de vos personnages dans des bols remplis de quelque chose. Et puis, il y a une piscine, une semi-noyade à un moment.
Oui, je pense que d'une certaine manière, j'adorerais plonger la tête aussi des spectateurs dans des bols remplis de toutes sortes de choses, et peut-être ma propre tête aussi. Parce que je pense que tout ce que vous voulez faire traverser vos spectateurs, vous devez accepter de la subir vous-même. Techniquement, je ne suis pas encore capable de faire plonger les textes des spectateurs, donc ne vous inquiétez pas. Mais Y, le personnage principal dans le film, il traverse tant de choses. Il avale tout, il suce tout, il lèche tout, il plonge partout, une pluie de pierres tombe sur sa tête. C'est que le début.
C'est que le début et ça peut être peut-être une apparition fantomatique. Enfin, ça, on ne sait pas. Est-ce que je peux vous faire un questionnaire autour du titre du film pour commencer? Quand et à quoi avez-vous dit oui pour la dernière fois?
C'est une question... Enfin, bizarrement, c'est une question piège pour moi parce que je me suis toujours défini comme quelqu'un, comme personnage de nom. J'ai grandi, j'ai hérité ça aussi de ma mère qui était une monteuse de cinéma, qui a monté aussi mes films, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Mais j'ai toujours hérité l'idée que la véritable noblesse est de dire non. Et que ce sont que les les faibles et les médiocres qui acquiescent, qui disent oui.
Le contraire du oui à la vie nietzschéen.
Le contraire du oui à la vie nietzschéen et le contraire du oui à la vie tout court que je voulais quand même vraiment, vraiment tester, essayer. Pour moi, le oui était presque une sorte, quelque chose d'interdit, quelque chose mystérieux que je voulais, je pense, essayer de toucher en faisant ce film, presque pour la première fois de ma vie. Je pense qu'il y avait pour moi une sorte d'aventure. Et si on disait oui? Et si on soit partant pour goûter la vie, pour boire, pour se salir de la vie, pour ne pas mettre une distance, pour ne pas se mettre à l'opposé, pour plonger à l'intérieur de cette matière qui s'appelle la vie, avec toute sa beauté et sa saleté. Et je pense que c'est ça ce qui se passe dans ce film.
Je vais vous poser 5 questions auxquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Faites-vous passer les gens que vous aimez avant vous?
Malheureusement, non.
Êtes-vous en colère?
Moins qu'on le pense, parfois.
Avez-vous honte de beaucoup de choses?
Non, non. Peut-être j'aurais dû, mais non.
Avez-vous des regrets?
Chaque jour, à chaque instant, tous les temps.
Êtes-vous mélancolique?
Non, non, je suis pas. Non, je suis pas ni mélancolique ni nostalgique.
Alors maintenant, vous avez le droit d'utiliser tous les mots de la langue française, évidemment, et de toutes les langues que vous voulez. Je reviens sur les regrets. Pourquoi vous avez autant de regrets, sans vous définir comme un être nostalgique?
Parce que, d'une certaine manière, je pense que j'ai une forme d'envie de toucher, de tâter, de goûter ou de mettre face à ma caméra tout ce qui existe dans le monde. J'ai une sorte de regret à l'infini par rapport à toutes sortes de formes de vie que je ne vivrai jamais là, par exemple, pendant ces tournées du film. Donc, je ne sais pas, on arrive à un avant-première à Tours. Et du coup, je m'imagine, je sais pas, on passe à côté d'un balcon, et je m'imagine moi-même dans ce balcon en train de mener ma vie à Tours, et je vois comment ça aurait pu être. Bon, Tours, c'est juste un exemple, oui. Mais comment ça aurait pu être mystérieux, exotique, intéressant, différent. Donc je suis jaloux de où j'ai des regrets par rapport à 15 000 vies que je vivrai jamais, et billions d'êtres humains que je connaîtrai jamais.
Est-ce que c'est simplement un appétit vorace de la vie ou est-ce que c'est parce que vous n'arrivez jamais à être dans le moment présent?
Je pense que j'arrive à être dans le moment présent seulement quand je filme, quand je tourne, pendant le tournage, quand je fais un film. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un, je me dis toujours que si quelqu'un veut me connaître, c'est pas obligatoire, mais si quelqu'un veut me connaître, ce sera mieux pour la personne de voir mes films que de me rencontrer en personne. Enfin, j'ai l'impression que mes films, c'est 150% moi-même.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Nadav Lapid, j'imagine que plein de journalistes vous ont parlé de ça, mais parce que c'est assez frappant, vous étiez poète vers l'âge de 4-5 ans, vous déclamiez des poèmes à votre nounou, 117, et je crois que ça a été la source d'inspiration pour votre film L'Institutrice, dans lequel une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie, et il y a certains de vos poèmes d'enfance dans ce film.
Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, c'est un mystère. C'est-à-dire, je ne connais pas cet enfant qui était moi-même. La seule chose qui me restait sont ces bouts de papier qui rajeunissaient pendant des années, au tiroir, à la maison de mes parents. Donc, finalement, pour moi, les seules traces, les seuls souvenirs, les seules preuves sont les textes, sont les mots. Je ne sais pas qui était cet enfant et qu'est-ce qui l'a poussé à commencer un jour à réciter des poèmes et à dire à sa nounou, j'ai un poème, j'ai un poème. Par contre, j'ai une forme de souvenir vague de la décision que j'ai prise après 3 ans de carrière de poète d'arrêter. De ça, je m'en souviens parce que je pense que c'était le moment où je sais pas comment dire ça autrement, un peu tombé malade dans cette maladie de la virilité israélienne. J'ai compris que ma vocation est d'être un homme israélien. ce qui veut dire toutes sortes de synonymes du mot soldat. Ça me paraissait beaucoup trop vulnérable, beaucoup trop fragile.
D'être poète.
Donc j'ai...
Vous le voyez comme une faiblesse à l'époque?
Je le voyais comme une faiblesse. Des poètes, ils sont capricieux, ils sont mélancoliques, ils ont des états d'esprit étranges.
C'est pour ça que vous aimiez Napoléon?
J'avais une admiration folle pour Napoléon. En Israël, on a une sorte de fête qu'on appelle Purim, qui est un peu équivalent au carnaval brésilien. Donc pendant 3 ans d'affilée, je me suis déguisé en Napoléon. Et il y a vraiment une anecdote, je ne sais pas si c'est... Mais on est allé une fois avec mes parents au Madame Tussaud. Vous connaissez ce musée avec les pupilles en cire.
Je crois que vous avez fait preuve d'une violence.
Oui,
envers un ennemi de Napoléon.
C'est ça. Du coup, quand dans un western, j'ai vu les yeux dans les yeux le pire ennemi, l'amiral Nelson, et un poupée de cire, évidemment. Donc je me suis rué sur lui. Heureusement que les agents de sécurité du musée m'ont traîné alors que j'étais en train d'insulter Nelson. Il faut dire que j'étais un véritable patriote français à l'époque, quand j'avais 7 ans.
Ça, on va parler de votre amour pour la culture française, mais quand vous êtes entré dans l'armée, je crois que d'abord vous vous êtes fait recaler pour cause d'eau fragile, vous avez pensé au suicide, vous êtes entré dans l'enseignement, vous avez excellé, vous avez été médaillé, et vous dites « j'étais fou, j'avais soif de mourir pour la patrie, j'étais un super soldat », et je crois qu'il y a un psy de l'armée qui a détecté chez vous un délire militariste. Comment est-ce que vous êtes passé de cet homme, justement, de toute cette autorité, ce masculinisme, cette virilité que vous montrez dans vos films, qui est toujours présente, à l'homme que vous êtes aujourd'hui, qui semble à l'opposé?
Alors moi, je ne suis pas sûr si aujourd'hui je suis complètement à l'opposé. Je pense que...
Enfin, vous êtes construit contre.
Je me suis construit contre, ça c'est vrai. Mais je pense que ces soldats qui étaient moi-même et qui étaient prêts à mourir pour la patrie... Mourir pour une telle cause et une autre, puisqu'il ne comprenait pas du tout qu'est-ce que ça veut dire la mort. Moi, je me souviens de moi-même à l'âge de 20 ans, en train de m'imaginer d'un côté ma funéraille militaire, et en faisant des plans, en me disant, bon, d'abord je mourrai, ça sera beau, et puis on verra, et puis je ferai d'autres choses. Et donc il y avait vraiment un manque total de compréhension de qu'est-ce que ça veut dire mourir, donc qu'est-ce que ça veut dire vivre. Et oui, je pense, évidemment, je ne suis plus la même personne, mais je pense que ce soldat existe toujours à l'intérieur de moi. Il y a, même si, du point de vue politique, idéologique, ça, il y a toutes sortes de prises de conscience, je trouve toujours, je ne sais pas, des gens aux uniformes, je trouve ça toujours fascinant. Je trouve ça, il y a quelque chose d'esthétique, il y a une sorte de quelque chose d'instinctif esthétiquement, qui reste dans votre tête, qu'est-ce qui vous fascine. Je dis toujours que moi, en manif, ceux qui attirent toujours ma curiosité sont les policiers et le CRS.
Je pensais à toutes les vieilles cassettes érotiques qui mettaient en scène des militaires ou des forces de l'autorité depuis très longtemps.
Donc, je ne suis pas les seuls, vous dites.
Non, je n'ai pas dit où j'avais vu ces cassettes, mais elles existent. New York Herald Tribune.
Est-ce que tu m'accompagnes à Rome? Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où, Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo, fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris. New York Herald Tribune!
Je t'en prends un.
C'est gentil.
On entend À bout de souffle de Jean-Luc Godard, et c'est un film que vous avez vu, Nadav Lapid, juste avant votre départ pour Paris en 99. Vous n'étiez même pas cinéphile et ça vous a énormément plu.
Oui, j'avais zéro cinéphilie à l'époque. Je pense que c'est le film que je suis allé voir. C'était des films américains, peut-être les plus recherchés et distingués, des films avec Bruce Willis ou des choses comme ça. J'étais vraiment, ça ne m'a pas trop intéressé. J'avais même une forme de mépris pour le cinéma. J'avais toutes sortes de proverbes comme ça. Le cinéma, c'est pour les gens qui manquent de l'imagination. Mais je pense que je n'étais pas très cultivé. Et par contre, j'étais déjà dans une sorte d'étape que aujourd'hui peut-être il faudra l'appeler post-trauma ou post-choc militaire, mais à l'époque je sentais juste une urgence folle de partir d'Israël pour jamais retourner, pour sauver mon âme avant qu'elle soit embrasé par la folie générale. Et je ne savais pas où aller. En fait, je regardais les globes comme ça pour choisir une destination. Et je pense que c'est grâce à deux figures majeures, Zinedine Zidane et Jean-Luc Godard, que j'ai opté pour Paris.
Alors, Zidane, j'ai envie de vous faire réagir dessus, mais je vous ai vu en parler dans beaucoup de médias. Moi, j'aimerais plutôt savoir s'il y a beaucoup de vous dans le personnage de Yoav, dans votre film Synonyme, qui ne veut plus prononcer un mot d'hébreu, qui est à Paris, qui fantasme totalement la France, mais quand on lui dit « tu connais qui de français ?», il dit « Céline Dion », c'est-à-dire une Canadienne.
Oui, bon. Presque tout ce qui oui, presque tout ce qu'on voit dans ces films est arrivé. Je ne sais même pas s'il faut dire d'une manière ou d'une autre, mais c'est arrivé tout court. Et c'était une époque, une période extrêmement compliquée, mais en même temps, c'est à cette époque-là où j'ai découvert le cinéma, où je suis né en tant que cinéaste. Donc cette époque m'a donné peut-être les dons les plus importants de ma vie.
Parce que finalement, votre vie à Paris que vous aviez fantasmée, elle était plutôt glauque. Mais grâce au cinéma, vous teniez.
Oui, précisément. Elle était. Je pense que j'étais pas. Je ne me nommerais pas un fou, mais pas non plus 100% normal. Et...
Est-ce que ce n'est pas ça la normalité? Est-ce que ça existe d'être normal?
Pour cela, il faudra qu'on discute encore une heure. Mais je me souviens de moi-même en train de... J'étais très seul, donc je me suis, comme beaucoup d'autres personnes, je pense à Paris, dans le monde, mais vraiment, j'appartenais nulle part. J'avais l'impression qu'il y a une sorte de démon à l'intérieur de moi-même, et que bien que j'essaye de fuir Israël, Israël ne m'accompagnait pas de tout, comme une sorte d'ombre dans la rue, donc... C'était une tentative d'arracher quelque chose.
L'exorcisme.
Exorcisme.
Vous employez le mot démon et j'ai lu une interview de vous où vous dites que dans chaque scène d'un film, il y a un démon. C'est quoi votre rapport et votre définition du démon?
Mécène à moi, je pense que le principe de mécène à moi, c'est qu'il y a toujours le danger de l'échec, de l'écroulement, de l'explosion, de la mort de la scène. De la mort à l'intérieur de la scène, mais aussi de la mort de la scène. S'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas un sens de danger, je ne comprends pas pourquoi commencer à tourner une scène.
Et dans votre vie?
J'aurais adoré avoir, je ne sais pas, 20% de l'audace de mes films dans ma vie. Moi, je ne me qualifie pas de quelqu'un de prudent. J'ai quand même un talent de temps en temps de susciter des scandales. Donc c'est ok, je suis pas, je marche pas que sur des terrains sûrs. Mais je pense que malheureusement, j'ai pas cette jusqu'au boutisme de mes films.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Nadav Lapide, votre film « Oui » est en salle depuis ce matin. Il traite de votre vision de l'aveuglement des Israéliens face aux atrocités commises à Gaza. Précision, le scénario a été écrit initialement avant le 7 octobre 2023. Et depuis le 7 octobre, beaucoup de gens du monde entier se sont transformés en spécialistes géopolitiques de la région. Alors, n'étant ni spécialiste géopolitique, encore moins de cette région, et n'étant jamais allé en Israël de ma vie, permettez-moi de vous poser une question d'apparence naïve. Mais vous êtes israélien, ancien militaire, exilé et publiquement contre la politique de Netanyahou, ce qui vous vaut des inimitiés là-bas. La question est la suivante, que se passe-t-il en Israël?
Je pense que ce qui se passe là en ce moment en Israël, c'est l'horreur et c'est l'enfer. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire subir les Gazaouis, ce qu'on est en train d'exécuter. Il y a des définitions assez précises pour ça. génocide, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a plus aucune place pour un débat. Moi, je me souviens que quand on a montré les films au tout début, et quand on a montré les films les mois de mai, etc., il y avait un côté, il y avait des gens qui, même des gens qui ont aimé les films, ils pensaient qu'il y a un côté un peu excessif et tout. Depuis, malheureusement, je pense que la réalité a réduit beaucoup la distance ou l'écart. Et, enfin, l'écart entre les films et la réalité, c'est beaucoup réduit. Et au cœur du film, il y a un hymne, enfin, un nouveau hymne israélien, un hymne génocidaire chanté par des enfants. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de se débattre et que l'esprit, le vent qui souffle en Israël, c'est l'esprit génocidaire, que c'est la mélodie existentielle aujourd'hui de ce pays. Pourquoi ? Mais je pense, je le sentais depuis... Je pense que moi-même, je suis l'exemplaire de ça. Il y a une maladie. Pour moi, ça dépasse... Moi, je m'en fous de Netanyahu. Netanyahu, c'est une telle figure, une autre figure. Enfin, c'est un criminel, c'est un assassin, mais Netanyahu, pour moi, c'est...
Un symptôme.
C'est un symptôme. Je pense qu'il y a une âme collective israélienne par rapport à laquelle, d'ailleurs, je suis obsédé, parce qu'elle est aussi la mienne. Et cette âme collective, pour moi, est malade. Et un des pires symptômes de cette maladie, c'est l'aveuglement. Et comment c'est dans la vie quand on est aveuglé par rapport à nos propres défauts ou nos propres maladies et on ne fait rien pour les soigner puisqu'on les ignore. Donc ça fait que s'aggraver. Voici.
Mais avec les grandes manifestations d'une part significative de la société israélienne contre le pouvoir qui déferle en ce moment dans tout le pays, n'avez-vous pas un peu d'espoir ? Parce que vous semblez faire une grande généralité, comme si tous les Israéliens étaient malades, comme vous dites.
Je sens souvent, surtout au studio, de la radio, de télé en France, qu'il y a une attente... que je dise quelque chose d'optimiste ou que je dépeins une sorte d'image de société divisée en deux, les bons et les mauvais.
Non, je n'attends absolument
moi,
pas ça.
Moi, oui, porte justement sur des bons Israéliens. Moi, je pense que les problèmes ne sont pas les mauvais Israéliens. Il y a des mauvais Français, il y a des mauvais Américains, c'est évident. Ça existe partout. Je pense que les problèmes... ce sont les bons Israéliens et c'est pas par hasard que ces bons Israéliens, à mon avis, font aujourd'hui trop peu pour sauver Israël de devenir ce qu'il est en train de devenir, un pays haï et maudit pour encore des années, des années, des années.
Il y a eu un communiqué gouvernemental en Israël contre votre film. Vous venez d'employer le mot « haïr ». Est-ce que vous avez peur d'être haï ? Parce que vous prenez le risque d'être haï.
Bon, que je sois... Enfin, que j'ai peur ou pas, c'est le cas. Moi, vraiment, je ne me plains pas. Je me suis vu comme une victime. Et d'ailleurs, jamais, bizarrement ou pas, je me sens, malgré le fait que je reçois... Je ne sais pas combien de menaces, de morts ou d'autres par jour sur toutes sortes de réseaux sociaux et toute cette stupidité. Jamais, au moins pour l'instant, j'ai eu peur en Israël parce que je me sens avec toutes ces émotions. Je me sens tellement chez moi là-bas, enfin nulle part ailleurs. Je me sens aussi chez moi que, enfin, Tel Aviv, c'est un peu, c'est comme si je suis retourné à la crèche. Enfin, c'est toujours pour moi mon petit jardin. Mais oui, je me sens haï et la raison pour laquelle je me sens haï et je suis aussi haï par certaines parties ou grandes parties israéliennes qui d'ailleurs ne voyaient pas mes films, mais qui traitent une forme d'image. C'est justement ce que je venais de vous dire, parce que enfin, moi j'aurais adoré être un cinéaste iranien qui peut faire la distinction, par exemple, qui peut faire la distinction entre le régime et le peuple, qui peut dire oui, le régime est autoritaire et fasciste, je ne sais pas quoi, mais les gens sont des gens bien. C'est pas que les Israéliens sont pas des gens bien, c'est pas un péché d'être israélien, c'est pas, mais pour moi, le problème est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond, comme je l'avais dit auparavant, que telle ou telle réalité politique. Le problème n'est pas politique, le problème est existentiel. D'ailleurs, je pense que des pays, des peuples traversent des périodes. Des pays, je pense, des peuples traversent, je pense que les Français ont traversé aussi des périodes où ils sont incapables de soigner leur mots. Et c'est pour cela que je pense que, surtout eux qui se définissent comme des amis d'Israël, doivent être les premiers à poser, à mettre, à insister, à mettre un miroir à la taille de la lune devant nos visages pour qu'on voit quels humains on est devenus.
Ça me fait penser à une scène de votre film « Oui » où l'un des personnages brise le quatrième mur et s'adresse au spectateur et dit « Même les spectateurs détestent Israël, tout le monde déteste Israël. » Et là, il dit au spectateur « J'ai sur chacun de vous un secret qui, si je le révélais, vous tuerait. » Et moi, ça m'a fait penser à cette parabole biblique que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
C'est beau, j'adore ces paraboles d'ailleurs. Et oui, vous imaginez quand j'ai écrit cette phrase, depuis, disons que le pourcentage des spectateurs qui haïssent Israël a...
C'est accru.
Oui, c'est accru. Et je pense, enfin, moi, avec tout ce qu'on vient de dire, moi, j'ai pas l'impression que je fais ce qu'on appelle des films de gauche. J'ai même pas l'impression que je fais du cinéma politique dans le sens classique du terme. Enfin, moi, je pense, finalement, le cinéma m'intéresse mille fois plus que la politique. Et la vie m'intéresse mille fois plus que la politique. Et je pense juste que des baisers peuvent être aussi politiques, de la même manière que déclarations politiques peuvent être parfois sexuelles, romantiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens et la pénétration de la politique à l'intérieur. Et quand vous vivez en Israël, vous savez à quel niveau vous les sentez sur votre propre corps, qui est chaque distinction entre le public et l'intime est complètement fausse et factice. Mais je voulais m'adresser justement dans cette scène à ce public qui est le mien, qui a une idée d'habitude pas très favorable d'Israël, que je comprends bien, et qui parfois qui me prend pour une sorte de preuve, et voici, regarde, le cinéaste israélien qui haït Israël. Et moi, je pense que s'il y a une chose qui est vraiment interdite pour un artiste, c'est satisfaire. C'est satisfaire des attentes, c'est appartenir à un camp. Donc pour moi, c'était un peu écouter les gens, les spectateurs, mes spectateurs, et je vous vois.
Nadav Lapid, votre film Oui s'ouvre sur une scène de fête orgiaque. Ça commence par un baiser langoureux sur cette air, la bouche, Be My Lover, et j'adore l'Eurodance, donc je voulais le passer. C'est la fête, c'est le stupre, il y a un couple qui s'embrasse, qui ensuite embrasse tout le monde sur la bouche. Il y a de l'amusement, il y a de la vulgarité, il y a de l'obscénité. Et en fait, on va découvrir un couple d'artistes qui se prostituent. Et je voulais savoir, vous êtes-vous déjà prostituée ? Sachant tout ce que ça peut revêtir, évidemment, comme signification.
Dans ma vie privée et dans ma vie d'artiste, disons que je me soupçonne de me prostituer beaucoup plus souvent que je le pense. Je pense que Après, je ne suis pas un grand fan de la pureté.
Et est-ce qu'on ne se prostitue pas tous?
Justement, je pense que on embrasse sur la bouche, pas que par amour, et on lèche des bottes, et c'est pas parce qu'on les trouve savoureuses, et on les fait tous. Et moi, encore une fois, moi qui je pense qui a pour certains une image de artiste résistant, etc. Je connais bien mes points, mes zones de prostitution.
Et vous vivez bien avec?
Et j'ai jamais fait une analyse de ma vie. Donc la question si je vis bien ou mal avec quelque chose, c'est pas le genre de questions que je me pose. Je me demande à quoi ressemblera la scène qui va révéler, qui va mettre sur l'écran ma prostitution. Et là, je m'imagine Be My Lover de la bouche.
Il y a aussi Love Me Tender d'Elvis Presley dans le film.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Elvis Presley, Love Me Tender, qu'on entend aussi dans votre film Oui, Nadav Lapid, dont on parle ce soir. Alors j'ai dit que ça commençait par une fête, et cette fête elle est assez phénoménale, elle est expiatoire, elle est convulsive, elle est fébrile. Comme s'il y avait une tentative d'épuisement, de catharsis, d'exultation, de décompression en réponse à la sidération.
Oui, enfin, d'abord je voulais dire qu'on venait d'écouter l'une après l'autre Love Me Tender, Be My Lover. Est-ce que vous avez déjà essayé d'écouter ces deux chansons en même temps?
Évidemment, tous les jours.
C'est ça, parce que en fait c'est ça ce qu'il fallait faire.
Mais votre film c'est un peu ça,
oui.
Si on fait une synthèse.
Oui, tout à fait. Mon film, c'est dans mon film. Je pense que d'une certaine manière, dans mon film, on joue 10 000 mélodies opposées en même temps. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, le film, je pense, c'est à la fois une comédie musicale, une tragédie musicale.
Sous LSD.
Oui, sous LSD. Et une comédie musicale qui devient les cauchemars d'une comédie musicale, qui passe d'une tube techno à un hymne génocidaire. Et ce fait-là, moi, je suis né à Tel Aviv, j'ai grandi à Tel Aviv. Et à Tel Aviv, on avait toujours cette fierté, regardant en arrière, très inconsciente politiquement et assez conne, mais quand même que là où la mort existe, là où il y a, je ne sais pas, des attentats et des guerres, c'est là où on fait les fêtes les plus torrides. Et ces liens qui existent depuis la première scène entre le désir et la mort, entre l'obscénité et l'amour, entre le chef d'état-major et Elvis, et l'Army Tender comme chant de guerre, je pense que c'est quelque chose qui est très, très instinctif pour moi.
C'est un film qui est très sensoriel, sensuel, même parfois sexuel, et pas forcément dans ce qu'on pourrait attendre ou croire. Et en fait, la chose qui m'a frappée, c'est qu'à un moment, le personnage principal, qui est pianiste, dit « Je ne voulais pas être pianiste, je voulais être le piano. » Et j'ai l'impression que vous, Nadav Lapid, c'est la caméra. Je pense notamment à cette scène où la caméra elle-même danse au rythme de Aserehe, qui est un air pop kitsch qui a fait danser beaucoup de gens. Et la caméra est prise de convulsion, comme un être humain.
Et oui, enfin, je pourrais dire, c'est vrai que je pourrais dire la même, que je voulais pas filmer avec une caméra, ou que je veux pas filmer avec une caméra, je vais être la caméra, je vais devenir la caméra. Je pense que je vais aussi libérer la caméra en la sabotant. Enfin, moi, j'ai toujours rêvé d'être une forme de Jackson Pollock qui se rue sur la toile et qui tape la toile avec les pinceaux. Faire ça avec une caméra, c'est encore plus compliqué, mais très séduisant. Et il faut prendre cet outil antipathique et froid qui s'appelle la caméra, et la mouiller, et l'exciter, et la sexualiser. Je dirais pas la faire bander, mais bon. Mais pourquoi pas. Et pour que le film ne soit pas juste... quelque chose qui porte sur quelque chose, mais qu'elle soit cette chose-là. Je pense qu'on ne veut pas parler de la vie, on peut parler de la vie.
Vous avez cité Jackson Pollock, que vous adorez. Dans le film, il y a beaucoup de peintures. Il y a Georges Grosz, les piliers de la société. Il y a aussi l'artiste contemporaine qui est venue nous rendre visite, Claire Tabouret et Hervé Ingrand.
Oui, moi, enfin, ces derniers temps, je me trouve beaucoup, beaucoup plus inspiré par l'art moderne que par le cinéma. Je pense que parfois, enfin, il y a évidemment des cinéastes énormes, auxquels d'ailleurs je dois beaucoup, mais comme cinéaste, mais je pense qu'il y a une forme de tranquillité dans le cinéma de nos jours, je généralise, mais je trouve qu'il y a une forme de tranquillité que je comprends pas. Enfin, moi, je me réveille le matin, j'ouvre mes yeux, je me dis, waouh, ce monde est tellement fou, ce monde est tellement pervers, ce monde est en train de brûler. Ce monde est incontrôlable, ce monde est tellement sauvage. Et là, souvent, je vais voir un film et tout ce que je vois sur l'écran, c'est de la placidité, du calme et de la tranquillité. Donc, cette forme presque cette forme de collaboration pour moi avec le mal en les cachant. Grand partie du cinéma d'aujourd'hui pour moi beaucoup moins séduisant, et c'est pour cela je pense que je trouve beaucoup plus de complicité avec des artistes.
Alors ma dernière question, puisque tout à l'heure vous parliez du fait qu'il y avait des Israéliens dont vous admiriez les comportements, mais que selon vous, ils ne faisaient pas assez. C'est sur la puissance et l'impuissance de l'être humain. Dans votre film, oui, j'ai remarqué que le héros, Y, en fait, voit l'absolue vulgarité que vous semblez adorer mettre en scène. Il dit même à un moment, comment est-ce qu'on peut ne pas vous détester en voyant un groupe d'Israéliens très vulgaires. Et il adore Bach, mais il participe aussi à la vulgarité. Et je pense par exemple au Casanova de Fellini. Il regrette pendant tout le film, il souffre de la vulgarité, du manque d'érudition de tous les gens autour de lui.
J'adore ce film.
Moi aussi j'adore ce film, mais il participe tout de même à la vulgarité. Alors la question est la suivante, est-ce qu'on n'est pas forcément incroyablement décevant et limité parce qu'on est un être humain et que, en fait, est-ce qu'on peut faire plus ?
Je pense qu'on peut toujours faire plus, mais c'est vrai que tout faire n'est pas humain. Je pense que je pense que si vous êtes, pour moi, si vous êtes artiste, rien vous intéresse plus que les limites de l'humain. Et le défaut de l'humain et l'écart qui existe chez nous tous entre la manière qu'on s'imagine, qu'on imagine nous-mêmes et ce qu'on est réellement. Je pense que toute l'humanité se trouve à l'intérieur de cet écart-là.
Merci beaucoup, Nadav Lapid.
Merci.
Votre film, oui, est en salle depuis ce matin. Le livre Nadav Lapid, description d'un combat, préfacé par Juliette Binoche, vient de paraître aux éditions de L'Œil, sous la direction de Morgane Poquet. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Ronan Maé.